les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est Jean-Pierre Vernant, en 1967, que l'on entendra ici au micro de Gilbert Maurice Dupré. Il avait 53 ans et il dirigeait alors le Centre Louis Gernet, centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes, qu'il avait fondé 3 ans plus tôt. Il était encore membre du Parti communiste, qu'il devait quitter définitivement peu après, en 69. Un parti qu'il avait quitté une première fois en 1937, avant de le retrouver après-guerre. Dans cette émission, Jean-Pierre Vernant parlait de son engagement politique, du sens de son action dans la résistance et de l'influence sur lui de la culture grecque. Interpellé sur l'avenir de l'homme dans un monde que dominerait la pensée scientifique, Jean-Pierre Vernant exposait longuement sa propre conception de l'humanisme au regard de l'effervescence des débats qui, en cette fin des années 60, travaillaient le monde intellectuel autour du structuralisme et des positions de Michel Foucault en particulier. Jean-Pierre Vernant, au micro de Gilbert Maurice Dupré, en 1967.
Monsieur Jean-Pierre Vernant, on vous a décrit à nous comme une sorte d'honnête homme. Est-ce que vous pensez que vous êtes un homme, étant l'honnête homme qu'on nous a présenté, est-ce que vous pensez que vous êtes un homme de ce temps ?
Un homme d'aujourd'hui. Eh bien, la réponse n'est pas facile, parce que j'appartiens peut-être à deux époques. Je crois être un homme d'aujourd'hui, d'une part parce que je suis, parce que j'ai été et que je reste, un homme engagé. Et qui dit engagé implique, puisqu'aussi bien vous discutez de la culture, une certaine conception de la culture. À savoir que si toute culture est tradition, elle est en même temps, à mon avis, nécessairement mise en question, renouvellement et rupture. Cela est vrai de la culture, mais cela est vrai aussi, pour moi, de ce qu'on peut appeler mon expérience sociale. Depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 17 ans, il y a eu une mise en cause de toute la réalité sociale d'aujourd'hui. Et cette mise en cause, elle m'a engagé intellectuellement, c'est-à-dire que je ne me suis pas contenté d'une réaction sentimentale. Cela a conduit à une certaine conception du monde, une certaine conception morale, une certaine conception pratique, et cela m'a conduit aussi à m'unir à d'autres gens qui pensaient comme moi et que je considérais comme mes frères et mes camarades de façon très sérieuse. Et puisque on a parlé ici de la résistance, je dirais que je ne crois pas que les problèmes se soient posés jamais en termes d'honnêteté, encore moins de sainteté, étant donné cette image que nous avions de la culture, de l'homme, et même de notre pays, et de nous-mêmes dans ce pays. Dès 40, nous étions absolument convaincus que nous ne pouvions pas vivre si les Allemands, si l'hitlérisme restait les maîtres en France. Et par là, nous avons été conduits à agir, et nous avons agi non sans sainteté, nous avons été conduits à faire des choses pour lesquelles nous n'étions pas faits, pour lesquelles nous n'étions pas préparés. Nous les avons faits comme nous avons pu, aussi bien, aussi mal que nous avons pu. Mais je crois qu'à aucun moment ne s'est même posé la question « pourrions-nous faire autre chose ?» Nous l'avons fait comme un nouveau métier, comme un cordonnier fait des chaussures, en tâchant d'arriver au résultat qui nous paraissait valable. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ont donné leur vie, je crois, de cette façon. Je crois que l'engagement, c'est cela, que si on réfléchit sur les conditions, on voit que derrière cet engagement à la fois tout simple et absolu, total, il y a en effet l'adhésion à une certaine image de l'homme, à certaines valeurs traditionnelles auxquelles nous tenons, mais en même temps, dans la mesure où ces valeurs nous semblent vivantes, la volonté de les renouveler, de les rajeunir.
J'en suis arrivé à une époque, personnellement, et peut-être pouvez-vous m'éclairer, vous qui êtes spécialiste d'une culture, à tout le moins, je suis arrivé à me demander ce que c'était que la culture dans un temps où l'on parlait de promotion culturelle et où la culture se mesurait beaucoup plus par kilogramme de papier que par autre chose, que par le nombre d'idées. La culture, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert pour un homme, tout ça?
Mais écoutez, d'abord, il y a un fait de langage qui est peut-être significatif. C'est qu'aujourd'hui, on dit la culture, comme on a dit déjà autrefois, mais on dit aussi les cultures. Et je crois que là, le point est très important. Il n'y a jamais eu de société sans qu'elle ne constitue une culture particulière. Nous parlons en ce sens des cultures des Esquimaux ou des Chinois de telle époque, où moi je parlerai de la culture grecque, archaïque ou ancienne. Mais dans cette culture, qu'on pourrait appeler les diverses civilisations, il y a toujours eu un ensemble de règles morales, d'habitudes intellectuelles, d'œuvres maîtresses, écrites ou même de traditions orales, dont la connaissance, dont l'appropriation appartenait à ce que je dois bien appeler une élite. Et cette élite a souvent d'ailleurs été constituée de façon, peut-être pas en un corps ou en espèce de clergé, mais tout de même une élite qui était assez profondément séparée du reste de la population. Et en ce sens, ils incarnaient cette culture et leurs œuvres se donnaient pour objet d'être toujours conformes ou d'être dans une très large mesure conforme à ces règles à la fois éthiques, esthétiques ou plus généralement presque métaphysiques à toute une conception de l'univers. Aujourd'hui, les choses ne se présentent plus de la même façon. D'une part, parce que un fait, au moins deux faits nouveaux me paraissent être intervenus. Le premier, c'est que dans l'équilibre de ce que nous appelons la culture occidentale, les sciences, c'est-à-dire quelque chose qui s'est développé réellement sous une forme entièrement indépendante depuis quelques siècles, les sciences ont pris un poids qu'elles n'avaient pas auparavant. Et que, en ce sens, si vous voulez, la culture bascule du côté de la science. C'est le premier point, ce n'est pas le seul. Il y en a un deuxième, c'est qu'aujourd'hui, les hommes cultivés, c'est-à-dire les hommes qui se sont frottés non seulement aux œuvres littéraires du passé, mais aussi aux sciences physiques, mais aussi sciences humaines, ont un sentiment très profond de la relativité des cultures, qu'il existe non pas la culture, mais des cultures diverses. Et que par conséquent, sur ce plan, toutes les cultures se valent. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que vous êtes un homme d'aujourd'hui? J'ai répondu oui. Et je crois que c'était vrai, dans une large mesure, mais je suis aussi très profondément, par le fait que je me suis consacré à l'étude de la Grèce ancienne, je suis aussi profondément pénétré de culture grecque. Et je crois que toute une partie en moi de l'humain est devenue grecque, si je peux dire, a été naturalisée grecque, non pas naturalisée, mais humanisée grecque. Il m'arrive de penser et de sentir comme un grec de l'époque ancienne, où je m'y efforce, et à force de jouer les fantômes, comme vous le savez, on le devient, à force de jouer les formes de pensée et de sentiment du grec ancien, je suis devenu en partie. Alors, cela rejoint peut-être ce que je disais tout à l'heure, dans un contexte bien différent. La nécessité non seulement de se rattacher à une tradition, mais peut-être à des traditions culturelles diverses, et par conséquent de les dépasser. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à fonder une culture qui correspond à l'homme du XXe siècle. Et cette culture, à mon avis, même si elle restera fidèle à certains traits de la culture occidentale, de l'honnête homme du XVIIe siècle, ne peut pas ne pas affronter le problème de son élargissement aux dimensions d'un monde qui comprend non seulement l'Europe occidentale ou les États-Unis, mais des continents qui sont vraiment des cultures et des humanités différentes de la nôtre. Ça ne se fera pas facilement, ça ne se fera peut-être pas non plus sans dégâts, sans pertes, mais je n'imagine pas qu'un homme sérieux puisse aujourd'hui poser sérieusement le problème de la culture sans dépasser les cadres de ce que j'appellerais volontiers un provincialisme européen.
Une des choses enfin, qui me semble troublante, oui, et dangereuse, c'est que si l'on parle de différentes cultures, on peut retrouver dans chacune d'elles une sorte de fond humain, commun, moral presque, même très certainement moral. Alors que l'intrusion brutale depuis 2 ou 3 siècles de la science fait que ces valeurs humaines morales sont elles aussi complètement submergées, et que si l'on en arrive à une civilisation scientifique, le fond purement humain risque fort de disparaître. Vous qui êtes en relation avec hier et aujourd'hui, enfin comment ressentez-vous le problème ?
Il y a, je crois, 2 questions qui sont différentes. Il y a tous les dangers que représente, non seulement pour la culture, mais pour l'homme, bon, les sociétés de consommation, une civilisation technique. Ça n'est pas la science. Je crois que la science, elle a ses exigences, et ce sont des exigences qui sont des exigences de normes. Oui. Si quelqu'un est un savant, et s'il fait son métier de savant, eh bien, il en est pour lui comme pour un artiste, qu'il soit peintre ou littérateur. Il a son système de règles, et il ne peut pas céder. Je pense à des débats très précis, très concrets. Si vous voulez, je pense aux problèmes qui ont pu se poser en Union soviétique pour un certain nombre de savants, lorsque pour des raisons qui étaient étrangères à leur discipline et qui étaient étrangères à la science, on a voulu leur imposer certaines vues sur tel type de discipline, la biologie par exemple, sur les problèmes de l'hérédité. Je pense que ceux qui avaient raison sont ceux qui n'ont pas cédé. Et ils n'ont pas cédé parce qu'ils étaient des savants. Ça veut dire que ils ressentaient profondément les exigences de normes qu'il y a dans... La science est une pratique. Et cette pratique ne peut pas se poursuivre sans un certain nombre de règles, sans un certain nombre de valeurs et de normes. Exactement comme un peintre ne peut pas accepter que pour des motifs extérieurs à ce qui est proprement son art, on lui dise qu'il faut peindre ceci ou cela, et qu'il faut peindre d'une certaine façon ou d'une autre. Je pense que les intellectuels soviétiques aujourd'hui ont pris une conscience aiguë de ces problèmes, et que tout ce qu'il y a chez eux, tous ceux qui sont vraiment des intellectuels valables, c'est-à-dire ayant à la fois la conscience de la gravité de leur rôle, qu'ils soient écrivains ou qu'ils soient savants, et ayant le souci du bien commun, le souci de l'intérêt de leur société socialiste. Tous sont maintenant convaincus que ce qui est fondamental pour un savant, c'est de maintenir son point de vue de savant envers et contre tous. Ça, je crois, c'est le premier point qui, à mes yeux, ne fait pas question. Il ne faut pas céder, il ne faut jamais céder sur ce plan-là. On peut se taire, mais on ne cède pas. On ne dit pas, un savant ne peut pas dire ce qui est contraire à l'orientation même et à la logique de sa discipline.
Je me rappelle quel était mon deuxième mot.
Mais il n'empêche que si on n'arrive jamais à une civilisation, à une culture purement scientifique, l'homme risque fort de disparaître dans l'entreprise et n'être plus que du ressort des bandes dessinées.
Alors là, la question que vous posez, elle engage un débat très actuel. Elle engage un débat actuel parce qu'au fond, il y a tout un courant de la pensée contemporaine, tout un aspect de ce qu'on appelle le structuralisme, par exemple, je pense surtout à Foucault, qui considère que, en effet, qu'on le veuille ou non, la notion d'homme et la notion d'humanisme appartiennent à un passé qui est maintenant révolu, et que ce qu'on peut trouver, c'est des ensembles, des structures dans le domaine des sciences humaines, des sociétés, des lois sociales, de l'art, exactement comme dans le domaine des sciences exactes, de la physique. On n'a plus d'objets individualisés, mais on a des réseaux de relations. Mon point de vue, il est exactement inverse quant aux conclusions générales. Je crois que, au contraire, le développement des sciences humaines, de l'anthropologie, la façon dont nous saisissons mieux aujourd'hui ce qui constitue les traits spécifiques de l'humanité, le fait qu'il n'y a que dans le cas de l'espèce homme que on a affaire à un être qui s'est peu à peu dégagé des conditions immédiates, matérielles et organiques dans lesquelles les espèces autres que l'homme sont fixées, pour créer une sorte de médiateur entre lui et la nature, qui est le monde de ses œuvres, le monde de son langage, de ses outils, de ses rites, de ses croyances religieuses, de ses institutions. Monde qui, contrairement à ce que nous voyons dans le domaine de l'animalité, où les espèces restent fixes, enfin les espèces, une araignée fait sa toile aujourd'hui comme il y a 2000 ans, le monde humain, au contraire, est un monde en devenir perpétuel. Et alors, cette idée, qui est une idée marxiste, mais qui n'apparaît pas seulement chez Marx, que l'homme est non seulement soumis à une histoire, c'est-à-dire que ses décisions s'expliquent toujours par des ensembles de déterminations, mais que ces déterminations ne sont jamais des nécessités, ce qui fait qu'il y a une responsabilité politique de chacun de nous, que si nous n'assumons pas nos tâches, eh bien, les choses ne se feront pas. Ce sentiment très profond que, justement, l'action politique correspond à une idée où l'homme est toujours à la fois déterminé, mais déterminant. Que bref, l'homme subit l'histoire en même temps qu'il l'a fait. Cette idée aujourd'hui, elle doit être complétée par cette autre, qu'en faisant l'histoire, c'est-à-dire en créant des institutions, des œuvres, des cultures, des civilisations qui ne cessent pas d'évoluer, qui présentent toujours des aspects nouveaux, finalement, c'est l'homme lui-même qui se fait en même temps qu'il est fait. Tout à l'heure, je vous disais, nous avons le sentiment, les hommes du XXe siècle, qu'il n'y a pas la culture, qu'il y a des cultures. Mais nous ne tombons pas dans un espèce de relativisme absolu. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse le savant, et peut-être ce qui devrait intéresser le moraliste et le philosophe, c'est que derrière cette diversité de cultures, il y a précisément des hommes, et des hommes qui sont à la fois différents les uns des autres, mais toujours des hommes. Le problème de savoir, de comprendre cette histoire humaine, de la comprendre sur le plan scientifique, c'est-à-dire d'expliquer à chaque moment comment les structures des œuvres et des œuvres les plus différentes, des institutions, du jeu des lois économiques, des rapports familiaux, des conceptions philosophiques, des croyances religieuses, comment tout cela peut être scientifiquement compris, mais en même temps de comprendre que dans le cas de l'homme, ces structures, ces systèmes ne sont jamais entièrement cohérents, entièrement fixes, qu'ils se modifient, et que pour comprendre ces modifications, pour comprendre la dynamique de ces transformations, de ces systèmes structuraux, il faut toujours prendre en considération la dimension proprement humaine. Quand on passe, par exemple, d'une technique à une autre, eh bien, il faut à un moment donné, pour comprendre comment l'invention a pu être faite, se référer à ce qui était dans la tête des hommes, à la façon dont ils maniaient leurs outils, dont ils les concevaient, dont ils se représentaient les rapports de leur action avec leurs outils. Bref, aucun effort scientifique de compréhension de l'histoire dans ces vues comme de pures structures ou des ensembles, des systèmes de structures, aucune compréhension de l'histoire ne peut se faire si la dimension proprement humaine, je dirais volontiers psychologique, c'est-à-dire le problème des mentalités, des formes de sentiments, des formes de personnes, de catégories comme la mémoire et la volonté, n'entrent pas en ligne de compte. On ne peut pas chasser l'homme. Les gens qui veulent chasser l'homme s'appuient surtout sur des analyses du langage. Mais le langage, il ne se parle pas tout seul. D'abord, il n'y a de langage que chez l'homme, parce qu'il n'y a que chez l'homme qu'on a quelque chose qui est un système symbolique, un rapport à des significations. Et il n'y a de langage que parce qu'il y a des gens qui parlent, qui communiquent et qui justement ont des choses à communiquer. Je crois que c'est une façon un peu facile de court-circuiter les vrais problèmes que de s'imaginer qu'on ne rencontrera pas sur le plan de la science et sur le plan de l'éthique, sur le plan des décisions à prendre, les hommes. Par exemple, une théorie marxiste qui s'imaginerait pouvoir expliquer les situations, les faits, à travers de structures aussi précises que possible, laissera toujours échapper quelque chose qui est fondamental dans le marxisme, qui est la nécessité pour les groupes humains en jeu, aujourd'hui par exemple pour une classe comme la classe ouvrière, de prendre conscience de la situation, de réviser continuellement, et voilà de nouveau la science qui intervient, parce que ici c'est l'esprit scientifique, de réviser continuellement ses théories, ses conceptions, et même plus, ses normes, ses règles d'action, ses formes d'organisation en tant que classe, de façon à être adapté à une situation qui ne cesse pas de se modifier, à la fois pour des facteurs objectifs, mais aussi en raison même de l'action des sujets humains et de tous les différents groupes qui composent la société. Il n'y a pas d'engagement politique. Si les hommes, il n'y a pas d'engagement moral, il n'y a pas d'engagement dans l'action, si les hommes et les groupes humains ne sont pas persuadés qu'ils ont un rôle à jouer, c'est-à-dire que jamais, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine des faits humains, l'avenir n'est inscrit d'avance, ni dans une culture, ni dans des structures économiques ou sociales. L'avenir reste toujours aléatoire. Et parmi les éléments qui décideront de cet avenir, il y a la façon dont les groupes, et chacun de nous, et vous, et moi, nous aurons compris un certain nombre de choses, et les ayant compris, nous aurons l'énergie et les qualités morales nécessaires, en même temps que les formes d'organisation, pour faire ce que nous avons à faire. On ne chassera pas l'homme. Si vous le chassez par la porte, il reviendra par la fenêtre.
Petite querelle de langage. Là où vous dites homme, il me semble très nettement entendre groupes sociaux, groupes sino-organisés, du moins ayant des relations définies. Et là où Foucault dit homme, j'ai l'impression d'entendre individu, individualisme, le libéralisme en fin de compte du 19e siècle.
Voilà. Quand je dis homme, j'entends certainement groupes humains et j'entends également pour notre société du 20e siècle l'individu humain. Car dans le 20e siècle en Occident, l'individu humain existe. C'est-à-dire que pour des raisons très complexes qui tiennent à la fois à des causes d'ordre social et économique, les individus ne sont plus vus dans leurs rapports sociaux ou familiaux avec autrui, ils sont pris comme des points de départ absolus, comme des atomes. Mais cela tient non seulement à des raisons sociales, mais aussi à toute une histoire religieuse, à toute une histoire morale et littéraire. C'est l'histoire de la personne telle qu'elle s'est dessinée depuis le monde grec, par une évolution qui a comporté des ruptures, des retours en arrière, mais c'est l'histoire occidentale de la personne. Je suis entièrement d'accord avec vous et avec Foucault et avec bien d'autres pour dire que cette histoire de la personne, elle est propre à l'Occident et qu'en ce sens, l'individu humain, tel que nous l'entendons, n'existe pas dans des civilisations du type Inde. Et par exemple, un indianiste comme Dumont a pu faire la démonstration que dans le système indien des castes, la notion de l'individu et la catégorie de la personne ne sont pas du tout dégagées comme en Occident. Donc sur ce point, entièrement d'accord. Mais ça n'est pas seulement cela qu'on fait lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'humanisme. L'humanisme, tel que je l'entends, tel que l'entendent les anthropologues, n'est pas l'idée d'une essence éternelle de l'homme et de l'homme défini comme sujet humain individuel. C'est l'idée que on ne peut pas comprendre les choses si on ne fait pas intervenir dans le détail des explications historiques à quelque niveau que se situe la recherche, aussi bien pour l'effet technique ou l'effet économique que l'effet d'œuvre littéraire ou de croyance religieuse, quelque chose que j'appelle le psychologique, c'est-à-dire des formes de pensée, des formes de sensibilité, des formes d'action humaine. Que ces actions soient individuelles ou collectives, pour moi le problème n'a strictement aucun sens, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il existe une opposition entre individus et groupes. Je crois qu'il y a d'une part une psychologie différentielle, c'est-à-dire une psychologie qui essaye de montrer comment M. Pierre est différent de M. Paul. Mais la psychologie générale, elle s'occupe aussi bien des individus que des groupes. C'est-à-dire elle étudie des fonctions psychologiques dont nous avons les attestations dans des faits qui sont à la fois d'ordre individuel et collectif. Je vous accorde donc, premièrement, que l'individu humain, la personne, l'idée d'une nature humaine éternelle liée à l'individu, tout cela, c'est simplement un produit de l'histoire qui est caractéristique de l'évolution des faits en Occident, mais je n'accorde pas du tout qu'on puisse envisager des systèmes de relations ou de structures qui n'auraient pas à prendre en considération la dimension que j'appelle humaine et non pas individuelle et qui s'appliquera tantôt à des individus, tantôt à des groupes, tantôt à des collectivités qui sont des civilisations en général et que j'appelle humaine parce qu'elles mettent en jeu des notions psychologiques. Alors, le problème est de savoir si le psychologique a un statut autonome. Ma réponse est oui. Vous ne pouvez pas réduire le psychologique à du pur physiologique. Et d'autre part, les rapports du psychologique et du social sont des rapports complexes. Il n'y a pas de social sans psychologique. Aucune institution ne pourrait fonctionner si les hommes qui vivent ces institutions ne donnaient pas à ces institutions un sens. Qu'est-ce que c'est qu'une règle juridique, sinon une certaine forme de comportement humain lié à une conception des rapports entre les êtres, lié à des formes de sentiments. Donc un fait social a un contenu psychologique. Ce sont deux faces d'une même réalité. Et de la même façon, une réalité psychologique est toujours liée à un contexte social. En fait, il faut remplacer cette notion de faits sociaux et de faits individuels par l'idée qu'il y a des conduites humaines, individuelles ou collectives, et qu'il y a d'autre part des œuvres humaines. Une institution, comme un tableau, comme un rite, comme un mythe, doit être pris comme une œuvre humaine, quelque chose qui a une structure, et qu'à un certain moment donné, les hommes, ou plutôt tel groupe d'hommes, ou tel individu appartenant à tel groupe dans telle humanité, a créé. Et c'est dans cette œuvre qui nous est restée, qui est une œuvre de civilisation, que nous pouvons saisir ce qu'a été l'individu ou les groupes de telle époque.
Vous venez d'entendre Jean-Pierre Vernant au micro de Gilbert Maurice Dupré en 1967. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.